Vassili Mitrokhine. C'est en 1999 que, pour la première fois, le monde a entendu parler de cet espion soviétique quand les archives qui portent son nom étaient publiées en Grande-Bretagne, créant la stupéfaction.
Il est absolument unique. C'était incroyable. C'était génial.
C'est tout à fait inouï dans toute l'histoire des renseignements secrets.
Cet officier du renseignement soviétique a travaillé au KGB pendant presque toute la guerre froide. La plus grande partie de sa carrière, il l'a effectuée aux archives, classant et numérotant des dossiers qu'il fallait ensuite ranger avec soin sur les rayonnages. Mitrokhine était un espion, mais un espion employé de bureau. Pas très glamour, l'anti-James Bond en somme. Pour ses collègues et pour ses chefs, Mitrokhine était un agent docile et sans histoire. Arrivant à l'heure le matin à la Loubianka, le sinistre siège du KGB à Moscou, et repartant tranquillement le soir chez lui. Mais il n'aurait pas dû s'y fier. Vassili Mitrokhine, en réalité, avait un secret. Un secret énorme, une véritable bombe à retardement.
This very simple Russian, this bureaucrat,
ce russe très simple, ce bureaucrate,
was so disgusted with the evil and immoral,
était tellement dégoûté du régime pervers et immoral sous lequel il opérait, qu'avec diligence et minutie, il a copié des fichiers du KGB.
What a swell kick in the ass.
Quel beau coup de pied au cul.
Pendant 12 ans, de 1972 à 1984, à l'abri des regards et au risque de sa vie, l'archiviste, durant ses journées de travail, a recopié à la main sur des morceaux de papier des dizaines de milliers de données ultra-confidentielles sur l'espionnage mené à l'étranger par le KGB, depuis la révolution bolchévique en 1917 jusqu'aux années 1980. Les archives alors les plus secrètes au monde. Il emportait les morceaux de papier le soir chez lui, avant de les cacher dans le sous-sol de sa datcha à la campagne. Vous l'avez compris, Vassili Mitrokhine était une taupe. Mais pas de ces agents doubles qui travaillent pour un service secret ennemi. Non. Mitrokhine était plutôt un dissident, un solitaire, silencieux mais obstiné, qui attendait son heure. En 1992, l'archiviste désormais retraité se décidait à passer à l'action. Il s'est rendu dans les pays baltes, où il a proposé son précieux matériel à l'ambassade du Royaume-Uni. Il sera bientôt exfiltré en Angleterre avec sa famille. 7 ans plus tard, les archives Mitrokhine devenaient un livre. Mais entre-temps, le MI6, les services secrets britanniques, avait transmis à ses homologues occidentaux les renseignements les concernant. Les révélations étaient stupéfiantes. Le FBI n'en revenait pas.
Ce sont les renseignements les plus complets et les plus importants jamais recueillis.
Et à aucun moment, le FBI, ni aucun autre service secret, n'a mis en doute l'honnêteté de Mitrokhine ni l'authenticité de ses documents.
Robert Bear Bryant, le directeur adjoint du FBI, dit que les archives Mitrokhine ont permis de remplir les trous du puzzle de nombreuses vieilles affaires.
Il nous a donné les parties manquantes sur le bord du puzzle, mais aussi celles du milieu.
Vous n'avez aucun doute sur l'honnêteté de cet homme?
Aucun.
Coups tordus en tout genre, assassinats, chantage, opérations de subversion idéologique ou de désinformation, installations de caches d'armes, les archives Mitrokhine livraient aussi les noms ou noms de code de milliers d'agents illégaux soviétiques vivant clandestinement à l'Ouest, mais également de citoyens occidentaux qui, à un moment ou un autre de leur vie, avaient choisi d'espionner pour Moscou. Des renseignements qui, sans Vassili Mitrokhine, seraient restés secrets pour toujours. Et pour David Major, ancien agent du FBI,
tous ceux qui ont été agents soviétiques depuis 1985 ou avant ne dormiront plus jamais tranquilles.
Mais comment expliquer que Vassili Mitrokhine, simple citoyen soviétique et obscur archiviste du KGB, soit devenu le plus important transfuge du XXe siècle ? Celui qui a permis à l'Ouest de découvrir l'ampleur de l'espionnage soviétique. Vassili Mitrokhine est né en 1922 à Yurasovo, une petite ville de Russie centrale à une centaine de kilomètres au sud-est de Moscou. Toute sa vie, il restera attaché à la vie campagnarde de son enfance. Même adulte, quand il vivra à Moscou, il n'aimera rien tant que quitter la ville pour aller à la pêche ou à la chasse. Trouvant une forme de paix dans la nature et aussi, vous l'avez compris, l'occasion de cacher ses documents secrets sous le plancher de sa datcha. Sur une photo, prise sans doute lors de son exil en Angleterre, on voit le vieil homme, silhouette massive, une canne à pêche à la main, seul au bord d'une rivière. Dans les années 1930, Vassili est encore un adolescent, mais il est déjà un communiste convaincu, malgré la collectivisation des terres et les grandes purges ordonnées par Staline.
Je croyais tout ce qu'on nous disait. Nous étions aveuglés par la propagande du parti.
À Moscou, le jeune homme entre à l'académie d'artillerie, puis suit une formation d'archiviste. Mais en juin 1941, il est encore trop jeune pour s'engager quand l'armée d'Hitler envahit l'Union soviétique.
De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. Les divisions finlandaises et roumaines marchent aux côtés des armées du Reich. L'Italie, la Hongrie, puis la Slovaquie se sont jointes à la croisade anti-bolchevique. La rapidité de l'attaque allemande a surpris les Russes. En moins de 7 jours, 2233 chars blindés et 600 pièces d'artillerie sont tombés entre les mains des troupes allemandes. De même, 60 000 hommes ont été faits prisonniers.
Fuyant l'avancée allemande, Vassili, 19 ans, se réfugie avec sa famille en Asie centrale, au Kazakhstan, où il entame des études de droit. Des études consacrées par un diplôme en 1944. En mai 1945, l'Union soviétique célèbre la victoire alliée contre l'Allemagne nazie.
Pour la première fois depuis son entrée en guerre, l'armée soviétique reprend la tradition de ses grandes parades sur la place rouge. La guerre, elle marquait la fête du travail, demain elles marqueront la fête de la victoire. À la tribune, Staline.
La même année, Vassili Mitrokhine entre à l'Académie supérieure de diplomatie et c'est 3 ans plus tard qu'il est recruté par les services secrets au KI, ou Comité d'information, le service chargé du renseignement étranger, qui à sa création en 1917 s'appelait la Tchéka et qui en 1954 prendra le nom de KGB. Pour ce jeune homme nourri à l'idéal soviétique, devenir tchéquiste, comme ils s'appellent eux-mêmes, est un honneur. L'aboutissement d'un rêve, comme le raconte Anatoli Sarno, ex-agent du KGB.
Un tchéquiste doit avoir la tête froide, le cœur chaud et les mains propres. C'est ce qui nous a été transmis dès le premier jour. Cela pénétrait dans nos têtes, nos cœurs et nos âmes. Seuls les meilleurs, les plus intelligents, les plus fiables étaient sélectionnés. C'était un grand honneur d'obtenir son certificat d'officier du KGB.
Et comme tous les heureux élus, le jeune Mitrokhine prête serment au KGB.
Je jure de défendre mon pays jusqu'à ma dernière goutte de sang et de ne jamais divulguer les secrets d'État.
Ne jamais divulguer les secrets d'État. Une promesse, vous le savez, qu'il ne tiendra pas. Mais pour l'instant, Vassili est un bon élément, enthousiaste, obéissant. Nous allons voir par quelles étapes la métamorphose va s'opérer. Du parfait agent soviétique jusqu'au dissident prenant tous les risques pour révéler au monde les activités du KGB. En 1950, l'officier part pour sa première mission à l'étranger, au Moyen-Orient pendant 3 ans. Mais le 5 mars 1953...
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne ?
La mort de Staline soulève chez les soviétiques un immense espoir de liberté. Le virage amorcé par son successeur semble confirmer cet élan. En février 1956, dans son célèbre rapport secret, Nikita Khrouchtchev dénonce les excès du stalinisme sans toutefois remettre en cause le système. La censure est toujours bien présente, comme on l'entend dans ce reportage de Jean Neuvecel, correspondant à Moscou de la radio française.
Moscou. Il n'est plus exagéré de dire qu'elle constitue le principal sujet de conversation dans de vastes couches de la population. Tout cela suffit amplement, on s'en doute, pour amener la plus vive agitation dans les esprits, tout surpris de voir prononcer à haute voix et par des chefs des réflexions qui ne se faisaient qu'à voix basse et dans le secret des familles. Allô Paris, ici Moscou, radiodiffusion, télévision française. Allô ?
Allô Jean Neuvecel ?
Oui ? Oui, je vous entends à peine.
Bon, et je vous demande si votre papier a été coupé par la censure.
Oui, mon papier a été à 3 reprises coupé par la censure.
Ah bon, d'accord, merci, au revoir.
Étonnant. Même au sein du KGB, ce cœur névralgique du stalinisme, le rapport Khrouchtchev est largement débattu pendant plusieurs jours. Les langues soudain se libèrent, celles de Mitrokhine aussi. Mal lui en prend, car les critiques, très anodines en réalité qu'il formule alors à l'égard du KGB, vont lui valoir un sérieux retour de bâton. 1956, c'est aussi l'année où l'officier est envoyé en Australie à l'occasion des Jeux Olympiques de Melbourne.
Ici Melbourne, nous sommes de nouveau installés avec Loïse Vanley dans les tribunes du
Main Stadium pour assister à la première journée de compétition. Déjà ce matin, le stade était...
Sous couvert de coaching sportif, sa véritable mission au JO est de surveiller les faits et gestes des athlètes soviétiques. Mais à son retour à Moscou, l'officier Mitrokhine apprend la mauvaise nouvelle. Il n'ira plus en mission. Lui, qui partait souvent à l'étranger pour des opérations parfois périlleuses, parfois agréables, quand il profitait des charmes du capitalisme, désormais, il n'ira plus nulle part. Puni pour quelques mots critiques, Mitrokhine est muté dans un emploi de bureau aux archives du KGB. Un sombre placard, en somme. Imaginez un peu James Bond, chargé de trier des dossiers poussiéreux. Mais nous allons le voir, l'officier archiviste fera de cette humiliation une force quand il découvrira la puissance subversive des documents qui dorment dans les archives du KGB, les archives sans doute les plus jalousement gardées au monde. Mais ne nous y trompons pas. La lente et irréversible métamorphose de Mitrokhine n'est pas qu'une affaire de vengeance, d'orgueil blessé. Elle résulte d'une véritable prise de conscience politique.
Ça n'a pas été une conversion subite. Je me rendais compte des contradictions qu'il y avait entre ce qu'il disait et la vraie vie.
D'abord, Mitrokhine a découvert, à ses dépens, que l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev ne changerait rien au système soviétique. D'autre part, cet homo sovieticus a une faiblesse, un secret que ses supérieurs ignorent. Il aime la littérature. Et un événement va profondément le choquer. Lorsqu'en 1958, l'écrivain russe Boris Pasternak se voit attribuer le prix Nobel de littérature pour son roman « Docteur Jivago », les autorités soviétiques lui interdisent d'aller à Stockholm chercher son prix, tandis qu'une campagne calomnieuse est lancée contre Pasternak.
Ici Constantin Jarmeko, correspondant de l'agence France-Presse, qui vous parle de Moscou. L'attribution du prix Nobel de littérature à Boris Pasternak est une manigance de la réaction internationale. Son œuvre est un corps étranger dans la littérature soviétique. En acceptant ce prix, Pasternak a choisi le chemin de la honte et de l'infamie. Tel est du moins l'épilogue de la Gazette littéraire, organe de l'Union des écrivains soviétiques. La répudiation est formelle et la condamnation est catégorique. Les foudres sont lancées. Quelles en seront les conséquences pour Pasternak lui-même en premier lieu? D'ici Moscou, à vous Paris.
Bouleversé par la disgrâce subie par Pasternak, Vassili Mitrokhine, pour la première fois de sa vie, décide de protester. Il adresse une lettre anonyme à la Gazette littéraire du parti, qu'il écrit de la main gauche pour ne pas être reconnu. Mais comme il a léché l'enveloppe pour la fermer, il a peur. Le laboratoire du KGB n'a-t-il pas les moyens de le piéger par sa salive? Par chance, il ne sera pas identifié. Mitrokhine aime la littérature, il aime aussi la danse. L'officier du KGB se rend régulièrement au théâtre Kirov à Leningrad pour assister à des ballets. Parmi les danseurs qu'il admire le plus, il y a bien sûr Rudolf Nureyev. Mais en juin 1961, le célèbre danseur a profité d'une tournée à Paris pour faire défection à l'ouest.
C'est, semble-t-il, au dernier moment, sur l'aérodrome du Bourget, alors qu'un avion anglais, il était 11h30, allait l'emmener, lui et ses 150 camarades, à Londres, où les ballets de Leningrad doivent donner maintenant une série de représentations. Nureyev, au moment de monter dans l'avion, s'est mis sous la protection de la police française de l'aéroport. On le conduisit alors dans les locaux de la police du Bourget. Là, en présence du consul général et d'un attaché d'ambassade soviétique, il déclara qu'il voulait rester en France. Des membres de l'ambassade soviétique se sont d'ailleurs aussi entretenus avec lui, mais Nureyev n'a pas voulu changer d'avis.
Après cette défection, Mitrokhine découvre avec horreur que le KGB multiplie les opérations d'intimidation contre Nureyev. Articles calomnieux, colis bai. Un complot a même été monté pour briser les jambes du danseur. Autre étape de la prise de conscience de Mitrokhine, la nouvelle en août 1968 de l'écrasement du printemps de Prague.
Coup de force en Europe de l'Est, les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit.
Il était 23h30 hier soir, heure de Prague, lorsque des troupes soviétiques et des unités d'autres pays du pacte de Varsovie ont franchi les frontières tchécoslovaques.
C'est aux premières heures de l'aube que la radio de Prague a annoncé la nouvelle, en précisant que cela s'était passé sans que le président, le premier ministre ou les membres de l'Assemblée nationale en aient été avertis.
À ce moment, Vassili Mitrokhine comprend que le système soviétique n'est pas réformable. Et en 1970, quand le dissident Andrei Sakharov crée le Comité pour la défense des droits de l'homme, Mitrokhine, impressionné par cet acte courageux, éprouve comme un soulagement.
J'étais un solitaire, mais je savais désormais que je n'étais pas seul.
Mais comment peut-il agir ? En 1972, un événement inattendu va offrir à Vassili Mitrokhine une occasion inespérée. Le KGB, victime de son gigantisme, décide de déménager sa section dédiée aux renseignements étrangers dans un immeuble tout neuf de la banlieue de Moscou. C'est à Mitrokhine seul que revient la tâche de trier, de vérifier et de mettre sous scellé les 300 000 dossiers ultra-secrets de ce service avant leur transfert. Au départ, comme à l'arrivée du déménagement, l'archiviste en chef dispose de bureaux privés où il pourra consulter les dossiers à son aise. Il va profiter de cette liberté inespérée pour compiler ses renseignements. Les dossiers les plus secrets sont ceux qui renferment les noms des illégaux depuis les années 1920. Ces agents soviétiques qui espionnaient, ou espionnent toujours, à l'étranger, sous une fausse identité. Mais aussi les étrangers qui, dans leur pays, espionnent pour le compte de l'Union soviétique. Au début, Mitrokhine tente de mémoriser tout ce qu'il lit et de le retranscrire le soir chez lui. Mais cela prend trop de temps. Il passe à la vitesse supérieure. Dans son bureau du KGB, prenant le risque à tout instant de se faire prendre, il recopie à la main les informations sur des bouts de papier qu'à la fin de la journée, il dissimule dans ses chaussettes avant de rentrer chez lui, où il les cache sous le matelas. Le week-end, il emporte ses papiers à la campagne, dans sa datcha, sa petite maison en bois, à 36 km de Moscou. Là, à l'abri des regards, il enferme les papiers dans des bidons de lait en métal, bien hermétiques, qu'il enterre ensuite sous le plancher. Mitrokhine ne sera jamais inquiété. Un vrai miracle. L'archiviste sait pourtant qu'il risque sa vie. Au KGB, personne n'a oublié Oleg Penkovski, un collègue condamné à mort et exécuté en 1963 pour avoir transmis des renseignements à l'Ouest.
Camarade colonel, nous avons dont le prisonnier est reconnu coupable, Oleg Penkovski. Voici la sentence. Lisez-la avant d'exécuter sa peine.
Le dangereux manège de Mitrokhine va durer 12 ans, jusqu'à sa retraite en 1984. Plusieurs fois, Mitrokhine tente de passer ses documents à l'ouest. Une fois, il part en Extrême-Orient, sur l'île russe de Sakhaline, avec l'idée de se rendre au Japon. Sans succès. Une autre fois, il part en Carélie pour tenter d'entrer en Finlande. Encore un échec. C'est la chute du mur de Berlin, totalement inattendue, le 9 novembre 1989, qui va précipiter la suite des événements.
À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir.
À ce moment, le verre est dans le fruit. Et plus rien ne pourra l'arrêter. En Union soviétique déjà, le leader Mikhaïl Gorbatchev, depuis 1985, a lancé la Perestroïka et la Glasnost, ambitieux programmes de réformes politiques et économiques. En août 1991, pourtant, l'aile dure du Parti communiste tente un putsch pour rétablir l'ordre soviétique.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est donc un véritable coup d'État qui vient de se produire il y a quelques heures en Union soviétique où Mikhail Gorbatchev a été renversé par un comité pour l'état d'urgence. Un comité dans lequel figure le vice-président de l'Union soviétique, le premier ministre Valentin Pavlov et plusieurs dignitaires du régime dont les responsables du KGB et de l'armée. Ce comité est investi de tous les pouvoirs. Sa première décision a été de proclamer l'état d'urgence dans tout le pays pour une durée de 6 mois. Il fallait sortir de la crise le plus vite possible, a dit également ce comité.
Mais au bout de 3 jours, le coup d'état échoue. Vassili Mitrokhine, comme tous les Russes qui suivent les événements à la télévision, est soulagé par l'échec de ce coup d'état fomenté par des dirigeants du KGB. Et 2 mois plus tard, c'est sans regret ni nostalgie que le retraité apprend la nouvelle de la dissolution du KGB dans sa forme existante. Ultime coup de grâce à l'ancien monde, le 8 décembre 1991, c'est au tour de l'Union soviétique de s'effondrer.
L'Union soviétique n'existe plus. C'est le constat dressé hier soir par les présidents de Russie, de Biélorussie, rebaptisée entre-temps Bélarus, et d'Ukraine. Les 3 présidents slaves précipitent la désagrégation du RSS en annonçant la création d'une communauté d'États souverains.
C'est dans ce contexte, pour le moins confus et chaotique, que l'ex-archiviste du KGB décide de passer à l'action. Car il n'est pas dupe. S'il s'est réjoui de la disparition du KGB, Mitrokhine comprend vite que le SVR, le nouveau service de renseignement russe, n'a en rien rompu avec son passé, qu'il reste le digne héritier de la Tchéka et du KGB.
Ils sont toujours là. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes organisations, avec les mêmes objectifs.
Il est donc urgent pour Mitrokhine de mettre son trésor en lieu sûr. Le 5 mars 1992, au soir, à la gare de Moscou, le retraité du KGB, vêtu pour passer inaperçu de la police des frontières, d'un vieux manteau et d'un chapeau cabossé, traînant un caddie, ne paye pas de mine quand il monte dans un train de nuit pour Riga, la capitale de la Lettonie. La Lettonie, qui avec les 2 autres pays baltes, l'Estonie et la Lituanie, ont proclamé dès l'été 1991 leur indépendance par rapport à l'Union soviétique.
À l'étranger, le vote sur l'indépendance de la Lettonie et de l'Estonie a pris fin il y a quelques minutes seulement dans les 2 républiques baltes. Les électeurs, moins d'un mois après que les Lituaniens se soient massivement prononcés pour leur indépendance par rapport à Moscou, ont décidé à leur tour de défier le Kremlin.
Dans son caddie, le vieil homme a emporté quelques vêtements et de la nourriture. Mais au fond du caddie, sous le pain et les saucisses, Mitrokhine a dissimulé quelques pages de ses précieux papiers. Le lendemain matin, à peine arrivé à Riga, il sort de la gare et part à pied en direction de l'ambassade des États-Unis. À un employé américain, il donne son nom explique qu'il a travaillé 36 ans au KGB et qu'il possède des documents qui pourraient intéresser la CIA. Mais, est-ce à cause de l'aspect miteux du vieil homme, l'Américain lui répond qu'ils ne sont pas intéressés. Plus tard, vous vous en doutez, la CIA s'en mordra les doigts.
À l'ambassade, la division chargée des opérations en ex-Union soviétique ne lui a montré aucun intérêt. Ce qui, de mon point de vue, a été d'une stupidité stupéfiante.
Et conduit par les Américains, Mitrokhine, sans doute déçu, se rend alors à l'ambassade du Royaume-Uni, toujours avec son caddie.
Je souhaiterais rencontrer quelqu'un de haut placé. J'ai avec moi des documents importants, établis à partir des dossiers du KGB.
On ne sait pourquoi, les Britanniques lui réservent un meilleur accueil. Une jeune diplomate qui parle russe le reçoit. La première question qu'elle lui pose est pour le moins incongrue, typiquement british.
Voulez-vous une tasse de thé ?
Et surtout, elle l'écoute. Tout en buvant son thé, Vassili Mitrokhine sort les précieux papiers du fond de son caddie et les fait lire à la diplomate qui, stupéfaite, comprend très vite qu'il s'agit de documents exceptionnels. La jeune femme le dira plus tard.
C'était une véritable mine d'or.
Dans les mois qui suivent, Mitrokhine retourne plusieurs fois à Riga, à l'ambassade britannique, avec des milliers de nouveaux documents. Il est interrogé longuement par l'Intelligence Service, qui bientôt organise son exfiltration. En novembre 1992, l'ex-officier du KGB arrive à Londres avec sa famille, sa femme, sa belle-mère et son fils. Comme pour tous les exilés, abandonner le pays natal est un arrachement. Il n'empêche, Mitrokhine le racontera plus tard, en arrivant en Angleterre, c'était la première fois depuis 1972 qu'il se sentait en sécurité, qu'il n'avait plus peur. Entre-temps, il a fallu aussi exfiltrer les fameuses archives. Un commando du MI6 a pénétré clandestinement en Russie et s'est rendu à la datcha de Mitrokhine. Là, ils ont extirpé les bidons métalliques qui attendaient dans le sous-sol depuis des années et les ont discrètement emportés en Angleterre. Depuis 1992, les 300 000 documents des archives Mitrokhine sont conservés précieusement à l'Université de Cambridge, là où enseigne alors l'historien Christopher Andrew, spécialiste du renseignement. Avec lui, le vieil archiviste du KGB va travailler pendant des années pour retranscrire toutes les informations qu'il avait secrètement collectées et en faire un livre, Le KGB contre l'Ouest, qui fait sensation à sa sortie en Grande-Bretagne en 1999 et l'année suivante en France, édité chez Fayard. Le livre, rapidement un best-seller, est un choc.
From ABC News. This is Nightline. Reporting from Washington. September
9 septembre 1999.
C'était un solitaire, ayant un accès unique aux renseignements soviétiques les plus secrets, et il avait un secret à lui. Pendant 12 ans, il a exfiltré des informations que les États-Unis n'auraient pu espérer qu'en rêve. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, il est parti à l'Ouest, en emportant les archives des coups tordus. Ce soir, les archives du KGB, comment un homme a réussi l'impensable.
Le grand déballage peut commencer. Grâce au livre de Mitrokhine, une des découvertes les plus incroyables pour les Britanniques est celle de Melita Norwood. Ils apprennent, médusés, que cette vieille dame anglaise de 87 ans, fonctionnaire à la retraite, en apparence très respectable, avait été de 1937 aux années 70 une espionne soviétique qui a livré à Moscou des secrets nucléaires. Le 12 septembre 1999, les journalistes se pressent devant chez elle. Parmi eux, Anne Guéry pour Antenne 2.
Il y avait tant de monde ce matin devant son paisible cottage anglais que la vieille dame a dû se remémorer ce qu'elle avait si bien dissimulé. Melita Norwood a raconté sans l'ombre d'un regret pourquoi elle fut l'une des espionnes les plus efficaces jamais recrutées par Moscou.
J'ai pensé que les documents auxquels j'avais accès pouvaient aider la Russie à se tenir au courant de ce que faisaient la Grande-Bretagne, l'Amérique et l'Allemagne. En général, je n'approuve pas l'espionnage contre son propre pays. Et d'ailleurs, mon mari n'était pas d'accord avec moi.
Et semble-t-il, il n'était pas le seul, car les voisins de Melita ce matin n'en revenaient pas eux non plus.
Vraiment ? Ça me surprend. Je n'étais pas au courant de ça, mais je savais qu'elle était communiste.
À Londres, certains demandent qu'elle soit jugée. Issue peu probable, Melita continuera sans doute à boire le thé dans une tasse à l'effigie de Che Guevara, car à 87 ans, la dame a toujours la foi.
Mais au-delà de la Grande-Bretagne, l'onde de choc est mondiale. Dès 1993, le MI6 britannique a transmis aux services secrets occidentaux les archives Mitrokhin les concernant. De la Scandinavie à l'Australie, en passant entre autres par les États-Unis, la France, l'Autriche et l'Italie. Dans tous ces pays, beaucoup d'enquêtes sur des cas d'espionnage pro-soviétique étaient restées en suspens, faute de preuves. Elles allaient enfin aboutir, sur des personnes parfois toujours vivantes, comme Robert Lipka aux États-Unis.
Les informations Mitrokhin ont permis d'inculper Robert Lipka d'espionnage en 1996. Il avait espionné pour les Soviétiques à la fin des années 70 quand il travaillait comme secrétaire à la NSA, l'Agence nationale de sécurité. Le FBI avait suivi sa trace mais n'avait jamais pu l'identifier jusqu'à ce qu'ils aient les informations de Mitrokhin. Il purge actuellement une peine de 18 ans et peut-être davantage bientôt.
Robert Lipka avait toujours nié, mais avec Mitrokhin, les preuves désormais sont là. À son procès en 1997, Lipka, jusqu'alors inflexible, soudain craque et en larmes, reconnaît avoir travaillé dans le passé pour les Soviétiques. Lipka avait toujours pensé que le temps jouait en sa faveur.
Je n'aurais jamais cru que cette histoire, en sommeil depuis tant d'années, allait se réveiller ainsi.
Grâce à Mitrokhin, les Américains découvrent aussi les multiples opérations, parfois rocambolesques, menées contre leur pays par le KGB. Des caches d'armes installées sur le territoire américain en cas de guerre nucléaire, une tentative de sabotage contre le port de New York, la diffusion de rumeurs selon lesquelles le virus du sida aurait été créé par des chercheurs américains. On apprend aussi que dans les années 70, les Soviétiques ont cherché à recruter des hommes politiques américains. Cyrus Vance, nom de code Vizir, ancien secrétaire d'État de Jimmy Carter. À le recruter, ou à défaut, d'en faire un « contact de confiance ». Sans succès. Ils n'hésitèrent pas non plus à approcher Zbigniew Brzezinski, alors conseiller à la sécurité nationale de Carter. Mais ce politologue américain d'origine polonaise, très anti-soviétique, se révèle incorruptible. Le KGB décide alors de le discréditer en cherchant ou créant sur lui des informations gênantes. Brzezinski cacherait des origines juives ou bien il aurait une liaison avec l'actrice Candice Bergen. Là encore, ces mesures actives sont des échecs. Le KGB est tentaculaire, mais pas toujours efficace. La France n'est pas épargnée, loin de là. Antenne 2, le 18 septembre 1999.
La parution d'un très sérieux ouvrage, rédigé par un universitaire britannique, démontre que la France était le pays le plus visé pendant la guerre froide. Il ne manque que les noms, Hervé Brusigny, Benoît Duquesne.
Très vite, en 1994, la DST, le contre-espionnage français, reçut les notes Mitrokhin qui concernaient notre pays. Et l'on tomba de haut. Services secrets, diplomatie, presse, défense nationale, monde scientifique ou politique, pas un secteur n'est épargné. À la lecture du livre, même un ancien directeur du contre-espionnage reste surpris.
Je découvre qu'il y a plusieurs cas qui étaient complètement inconnus.
De votre service.
De notre service.
Et l'on découvre aussi que dans les couloirs du KGB, Jour était le nom de code d'un chiffreur du ministère des Affaires étrangères français. 30 ans, il travailla pour l'URSS. Les codes Gilbert, puis Gilles, désignaient un homme politique important, dévoué lui aussi à la cause. Depuis des années, la rumeur voudrait qu'il s'agisse de Claude Estier. Grotesque, nous a-t-il répondu. Jamais je n'étais l'agent de qui que ce soit. L'État ne semble guère disposé à ouvrir ce chapitre d'histoire, une histoire qui reste à écrire. En attendant, certains noms brûlent les lèvres.
On ne sera pas pressé, en effet, en France, de révéler certains noms, pourtant parfois écrits noir sur blanc dans les archives mitrokines. Il faudra attendre 2024, par exemple, pour que celui de Philippe Grimbach sorte dans la presse. L'ex-directeur de l'Express avait été pendant presque toute la guerre froide un agent du KGB. Pendant toutes ces années, Vassili Mitrokine, loin du tumulte du monde, continue en Angleterre de travailler à partir de ses archives. Lui qui désirait par-dessus tout faire connaître au grand public la réalité soviétique, publie d'autres livres avec Christopher Andrew, le KGB à l'assaut du tiers-monde, le KGB en Afghanistan et le lexique du KGB. L'ancien archiviste du KGB était en train de préparer un nouveau livre sur l'histoire de la Tchéka quand il meurt à Londres le 23 janvier 2004 à l'âge de 81 ans. Devenu citoyen britannique, Vassili Mitrokine a vécu jusqu'à sa mort dans un lieu tenu secret, sous un faux nom et sous protection policière. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Réalisation Audrey Ripouille. Documentation Frédéric Martin. Mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion, avec les comédiens Lise Combe, Grégoire Roqueplot et Benoît Marchand.